Bonjour à tous. Quatrième épisode de notre série sur l'ubérisation de nos vies à partir de 1855, après la guerre, l'intimité, la mémoire. Voici aujourd'hui la famille, ou plutôt le père. A-t-il encore un avenir? Comment lui réinventer une place? Le psychanalyste Jean-Pierre Winter ouvre la réflexion dans un livre qui paraît chez Albin Michel. Il nous rejoindra pour la grande table des idées après le journal de Thomas Cluzel. Mais d'abord, dans son nouveau roman Frère sorcière, ça vocifère, à la fois visionnaire, contre-utopiste, surréaliste. Rendez-vous aujourd'hui avec le chaman de la littérature, un passant dans le futur, l'étrange monsieur Volodine, et notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Il écrit parfois sous pseudo, s'est inventé un genre littéraire pour lui tout seul, le post-exotisme, expliqué en 10 leçons, s'est taillé un style, créé une communauté. On l'avait quitté au terminus radieux, Prix Médicis, il y a 4 ans. On le retrouve aujourd'hui avec Frère sorcière qui paraît au seuil.
Avance, avance jusqu'au 16e sanglot. Avance. Avec ou sans les mains ridées. Peu importe les rides sur tes épaules. Peu importe les rides sur tes cheveux. Avec fracas, avance, avance jusqu'au sanglot number 16. Avance sans les épaules. Avance avec fracas, sans le cœur qui bat. Atteins le 16e sanglot et éteins-le.
Bonjour Antoine Volodine.
Bonjour.
Cette fois, votre première héroïne est une orpheline recueillie par une troupe de théâtre itinérante avant d'être enlevée, kidnappée par des bandits. Esclave sexuelle du chef, elle va survivre, elle va s'encourager, s'apaiser aussi en répétant ces phrases un peu chamaniques, ces vociférations magiques entendues dès son plus jeune âge. Mi-sorcière, mi-résistante, qui sont vos héroïnes, Antoine Volodine? Quelle fraternité avec ces femmes, pour reprendre le titre du roman Frères sorcières.
Depuis très longtemps, je mets en scène des femmes au premier plan, des femmes qui sont puissantes, qui sont souvent beaucoup plus courageuses et résistantes que les hommes, qui eux s'écroulent face au destin. Elles, la plupart des femmes que je mets en scène, prennent leur destin en main et essaient de combattre l'adversité qui est souvent assez terrible, comme on le voit dans le début de Frères sorcières, puisque Eliane Schubert, l'héroïne principale, se trouve kidnappée, comme vous l'avez signalé, par des bandits, et elle va accompagner leur vie aventureuse et terrible en tant que maîtresse du chef des bandits.
Et le reste de la troupe va...
Alors bien sûr, elle fait partie d'une troupe de théâtre itinérante qui est entièrement massacrée et elle est la seule survivante. Mais mes personnages sont souvent pas très nombreux et ils sont, même s'il y a beaucoup de noms dans mes livres, le personnage principal est un survivant et très souvent une survivante.
Alors, dans ce premier chapitre, cette première partie du livre qui se structure en trois, on y reviendra, elle subit un véritable interrogatoire, cette femme, Eliane Schubert. Hein, à qui doit-elle rendre des comptes?
Oui, alors, comme souvent dans mes livres, les personnages évoluent dans un monde qui est le monde d'après la mort. Mais elle ne s'en est pas aperçue au début du dialogue qu'elle mène avec un interrogateur qui est une sorte de juge de la mort et qui va lui faire raconter sa vie et surtout cette partie terrible où elle doit vivre seule au milieu d'une bande.
Elle raconte au début du livre de ce témoignage qu'elle livre à cet homme, à cet ange de la mort, à propos de ses voix, de ses vociférations dont on entendait un extrait. Elle dit « Seules des femmes prenaient la parole dans la pièce qu'elle entendait, des démons, des prostituées, des mortes. Elles s'exprimaient uniquement au moyen de phrases terriblement brutales et concises qui sonnaient comme des avertissements, des conseils incompréhensibles et des slogans. Ma grand-mère et ma mère avaient intégré ces slogans à leur personnalité, à leur intimité, à leur existence quotidienne. » Ce sont donc ces voix, ces vociférations, ces fragments de mots, de phrases un peu incantatoires qu'elle va se répéter à plusieurs moments et notamment que l'on retrouve dans toute la deuxième partie de ce livre structuré en trois, comme je le disais. On entendait à l'instant un extrait des vociférations. Ça, c'est un enregistrement que vous avez réalisé pour les ateliers, l'atelier de création radiophonique de France Culture, et c'était déjà en 2004. D'où sont nées ces voix, Antoine Volodine?
Alors, les voix qui habitent Eliane Schubert sont des voix qui sont transmises de génération en génération, ce qui donne à cette deuxième partie étrange du livre, qui est la suite de ces vociférations, de ces ordres, de ces préceptes qui sont hurlés en chœur par des femmes, des voix fortes de femmes, parfois décédées, parfois mourantes, et de toute façon magiques, chamaniques. Ces voix, elles viennent de très loin, et elles m'ont habité depuis une vingtaine d'années. J'ai traduit, entre autres, un livre de Maria Soudaïeva, une poétesse que j'ai rencontrée en Asie, à Macao, et qui était malade mentalement et qui s'exprimait souvent par ces sortes de slogans.
C'était le titre.
C'était le titre du livre de Maria Soudaïeva. Et j'ai été absolument marqué par cela. Je trouve que la force de ces slogans étranges, surréalisants, mais qui indiquent quelque chose, qui indiquent une sorte de message d'après la mort. Les vociférations, en fait, c'est une longue suite de phrases qui aident, qui sont destinées à aider les petites sœurs, les femmes qui sont violentées, les femmes qui sont en prison et ou les femmes qui sont en train de mourir, comme on le voit dans la première scène. Ce sont des préceptes. C'est une aide à mourir et c'est une aide à se battre et à se battre contre pas seulement l'adversité, contre le monde entier. Ce qu'on va retrouver d'une part dans le combat que mène Eliane Schubert dans la première partie du livre, et ce qu'on va retrouver aussi, cette sorte d'énergie cosmique qui habite le personnage dont on va parler sans doute, qui est à la fois femme et homme, qui à un certain moment s'appelle Jean l'Insolente ou Jeanne le Goudronneux ou Mohomoho, et qui porte en lui toute cette magie que l'on retrouve dans les slogans.
Alors si je vous demandais de nous lire ou de nous déclamer quatre vociférations puisées dans le livre Frères Sorcières,
au hasard.
La 328, la 329, la 330, la 331, j'aimerais savoir si vous les criez, si vous les scandez ou si vous les chantez, parce que vous évoquez aussi cette forme du cantopéra. Comment est-ce qu'elle résonne dans votre tête? Alors voyons voir.
Oui, alors quand j'ai lu ces vociférations, c'était souvent en musique, accompagné de la musique du compositeur Denis Fragerman à l'intérieur d'un spectacle. Et je veux bien les lire, mais je ne sais pas si je donnerai la bonne intonation du premier coup.
Et comment résonne-t-elle dans votre tête ? Là, vous êtes entouré et habillé de silence uniquement.
Eh bien, je vais les lire. Quel que soit le rêve, oublie-le. Quelle que soit la langue, ne parle pas. Quelle que soit la route, fais demi-tour. Quelle que soit ta mort, n'attente pas à ta mort.
Chaque vocifération ou ensemble groupe de vocifération met en valeur un mot, une idée. On retrouve aussi cette puissance à la fois métaphysique, poétique, presque politique que l'on retrouve dans votre œuvre, Antoine Volodine. On retrouve cet univers en trois dimensions qui est le vôtre et d'ailleurs une fois encore, tous les repères spatiaux, temporels ont disparu. Où sommes-nous pour vous ?
Ah, mais dans ce livre, les repères temporels et spatiaux n'ont pas disparu. Dans la première partie, on est dans une sorte... Alors, on ne peut pas situer sur une carte, mais on est dans ce qui reste après l'écroulement d'une sorte de société post-soviétique, un peu comme dans Terminus Radieux, et où ne peuvent coexister que des victimes et des bandits. Et on est dans un univers de montagnes, de rocailles, de froid qui permet les grandes chevauchées. Il y a des lacs très beaux, des déserts de sel. C'est à l'intérieur de cet univers qui est décrit de façon précise que se trouvent les personnages. C'est pas dans un bardo difficile à décrire. Maintenant, effectivement, les voix ne viennent pas de la même manière et du même lieu. La voix d'Eliane Schubert vient de sa mort. La voix des femmes qui vocifèrent, qui passent donc du dialogue à un cœur. La deuxième partie, ce cœur vient effectivement de nulle part. Il vient, mais peut-être qu'il vient aussi quand il est entendu par des auditeurs ou des auditrices ou quand il est lu. Peut-être que il vient d'un inconscient collectif. Peut-être qu'il porte des valeurs d'inconscient collectif qui sont retrouvées facilement par les lecteurs et les lectrices, je pense. Et puis, la troisième voix, qui est un monologue torrentueux, est celle d'un thaumaturge, d'une sorte de créature qui va au-delà de la divinité, qui se transforme, s'incarne et se réincarne en permanence depuis des milliers d'années, ou depuis même beaucoup plus le temps et le temps du cosmos, puisque à un moment il parle, il évoque l'époque du Big Bang, ce qui montre que ça remonte à très loin. Alors on est là dans un espace noir qui est souvent l'espace sur lequel peuvent se greffer toutes les histoires, toutes les aventures, et qui est l'espace noir du post-exotisme.
Dans la troisième partie du livre, effectivement, la loi est dure, mais c'est la loi. L'espèce humaine est à nouveau en voie d'extinction dans un décor post-apocalyptique d'une cité ravagée par l'explosion d'une centrale nucléaire au départ, où il ne reste qu'une poignée de coriaces dont l'organisme appréciait les radiations, écrivez-vous, Antoine Volodine, dans une ambiance saturée de rayons bêta et gamma. Le narrateur est une sorte d'esprit, une présence qui s'établit mentalement dans le corps des autres. On va écouter un extrait de la pièce, parce que ce texte-là a été adapté par Joris Mathieu, c'était l'an passé au TNG de Lyon.
Adef Kakain, je viens d'atterrir hors de l'espace noir et je vais vers toi. Adef Kakain, Marie Odilon te demande de t'agenouiller devant elle afin qu'elle se venge de toi.
dans cette dernière partie, Antoine Volodine, qui se lit et se termine à bout de souffle, puisqu'il n'y a pas de point. Il faut lire tout cela d'une traite, et encore à bout de souffle, mais le souffle suspendu, puisqu'il n'y a toujours pas de fin et de point à la fin de cette centaine de pages. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Que la vie aussi est un perpétuel recommencement?
Ça m'a intéressé de mettre en scène une voix. Et c'est pour ça qu'on parle de chamanisme, de un souffle, une voix, et du théâtre à l'intérieur d'une masse noire de textes qui traduit effectivement la progression infinie d'un personnage non humain, mais qui lorsqu'il s'incarne dans des humains, devient humain, avec des possibilités évidemment de magie considérable, et de disparition et de réapparition et de réincarnation. Et ce qui m'intéressait, c'était de pousser ce souffle non pas ses retranchements, parce qu'il n'y a plus de retranchements, c'est de décrire et de dire la voix extrêmement puissante de la magie sans limite, de la magie d'un personnage donc qui vit depuis des milliers d'années et qui a assumé des milliers de rôles, puisqu'on peut parler de cela comme d'un théâtre. Et effectivement, il y a une boucle dans le texte, parce que c'était nécessaire de reprendre à la fin du texte le début du texte, mais on voit dans les aventures que traverse ce personnage, on voit qu'il n'y a pas de recommencement. Il y a des sortes de balises, des endroits dans lesquels il va se réfugier de temps en temps, quelques siècles, quelques millénaires, dans la tranquillité et le silence. Mais lorsqu'il reprend une forme qui nous intéresse, parce qu'on peut la suivre, c'est une forme humaine ou presque humaine, eh bien, les aventures qu'il vit sont marquées par de nouvelles transformations. Il n'y a pas une répétition. Il y a simplement une sorte de parcours en spirale et pas en cercle.
Sans début ni fin, en tout cas.
Sans début ni fin, oui.
Antoine Volodine, avec vous, le langage est clairement performatif. Il est aussi résilient, d'une certaine manière. Vous évoquiez le souffle dans la première partie. La parole, c'est un souffle de vie. Ça l'est aussi pour l'écrivain.
Oui, alors dans ce livre, plus que dans d'autres, il y a une sorte de parti pris théâtral et chamanique en même temps, magique, lié à la respiration, au souffle, à l'air, et donc à la parole. Mais au-delà de la parole, il y a la magie de la vie qui est souffle.
La magie de la vie qui est souffle, et ce réel qui revient aussi dans ces lignes post-apocalyptiques, passeurs du futur et passant dans notre temps, je le disais, Antoine Volodine. Je vous propose d'écouter les mots de l'écrivain péruvien, Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa, à propos de la force du roman.
Les romans ont cette extraordinaire qualité qu'est en semblant une représentation, une reproduction de la vie, ne l'est pas. Au contraire, les romans, les vrais romans, les romans achevés, c'est pas la vie, c'est une vie parallèle, c'est une autre vie, c'est un autre monde qui permet aux hommes d'entendre mieux, n'est-ce pas, les mondes dans lesquels ils vivent, et qui leur permet aussi de se réfugier ou de compléter toutes les insuffisances et les carences de ces mondes-là avec ces mondes merveilleux de la fiction. C'est un témoignage, bien sûr, subjectif, mais un témoignage qui exprime en même temps ce que les hommes d'une époque ou d'une société ont été, et aussi toutes les fantômes qui l'ont créé à partir de cette réalité objective.
Et des fantômes, il y en a aussi dans Frères Sorcières, Antoine Volodine. C'est notre monde que vous racontez à travers votre roman, ou c'est un monde complètement parallèle ?
D'abord, je voudrais m'exprimer sur la définition de Vargas Llosa, qui est magnifique et qui convient parfaitement pour ce texte-là. Il parle du réel et de ses fantômes et de ses rêves, de ce qui apparaît en dehors, dans l'imaginaire. Et moi, je pense que tout ce qui a été écrit et signé par des écrivains post-exotiques est extrêmement éloigné de la réalité, du réel, et en même temps se construit à partir du souvenir, à partir des fantasmes que crée la réalité, qu'implique la réalité. La plupart du temps, il y a une référence historique et une référence sociologique, une référence au réel qui a été transformée par l'écriture et par une sorte de filtre onirique qui est la manière que j'utilise pour travailler, de travailler sur notre monde, effectivement, notre monde, en particulier le monde du XXe siècle, mais le monde très contemporain, mais en lui faisant subir une transformation onirique, une transformation fantasmatique qui fait que lorsqu'on lit ces livres, je pense que on est dans un univers parallèle, mais qui a un grand nombre de passerelles qui mènent à nos souvenirs, à notre inconscient collectif, à notre inconscient historique et à notre conscience également historique.
Ça fait bien longtemps, Antoine Volodine, que vous avez inventé ce genre littéraire, cette construction que vous l'avez définie de post-exotisme. Aujourd'hui, ce préfixe est employé à tort et à travers, en tout cas de manière très récurrente. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, l'emploi de plus en plus répété de ce préfixe post, post-vérité, post-démocratie? Est-ce que vous pensez que là, ça y est, on est à un tournant que vous annonciez depuis un moment?
Bon, d'abord, pour résumer en simplifiant extrêmement ce que je fais, le post-exotisme, c'est 49 livres. Celui-ci, c'est le numéro 43. Bon, le mot lui-même, post-exotisme, a été forgé de façon tout à fait hasardeuse et pas très sérieuse, à un moment où déjà apparaissait beaucoup le post, en particulier dans les arts, le post-modernisme. Mais je ne crois pas que nous ayons dépasser quelque chose. Je pense que si. Nous avons, il y a eu un aiguillage au XXe siècle, dans le dernier tiers du XXe siècle, où on pouvait prendre la direction, je dis on, l'humanité, pouvait prendre la direction du socialisme ou la direction de la barbarie. Alors, je pense que nous allons en pleine barbarie actuellement et que il n'y a pas de retour. Nous ne sommes pas dans le poste, nous sommes dans le présent qui est le début d'une société de barbarie.
Quels sont ces symptômes? Quels sont ces signaux?
Les guerres incessantes, la violence des puissants contre les victimes nombreuses.
D'où ce ton aussi que vous employez dans vos livres, toujours, ce tragicomique qui nous invite à agir, voire à réagir. On se demande toujours qui sont, au fond, les responsables de toutes ces guerres perdues, de ces grandes causes dévoyées, de ces révolutions avortées, et que peut faire l'écrivain face à cela. Je vous propose d'écouter les mots du japonais Haruki Murakami.
Nous, les écrivains professionnels, qui faisons des mots notre spécialité, nous avons un rôle important à jouer dans cette mission collective de grande ampleur. Nous devons associer éthique et valeurs nouvelles à des mots nouveaux. Nous devons inventer de nouvelles histoires vibrantes et les laisser germer. Nous pourrons ainsi partager ces histoires. Elles doivent avoir un rythme qui peut entraîner les gens, comme les chants des paysans pendant le semis. C'est de cette manière que nous avons pu reconstruire un Japon complètement détruit par la guerre. Aujourd'hui, nous devons revenir à ce point de départ.
Murakami qui évoquait l'écriture et la responsabilité des écrivains. Comment écrire après la catastrophe, ici Fukushima. Vous êtes fait le porte-parole, livre après livre, de cette voix humaine, de cette voix collective que vous portez. En quoi croient les hommes? À quoi rêvent-ils? Est-ce que c'est aussi cela que vous essayez de réveiller en nous?
Réveiller, sans doute, si c'est endormi, pourquoi pas, mais je vous vois un peu venir en me demandant si je n'ai pas de programme ou si la littérature post-exotique n'est pas une littérature engagée. Et en fait, la littérature post-exotique est faite par des écrivains et des voix extrêmement conscientes et lucides politiquement, mais qui ne donnent pas un mode d'emploi et qui ne tiennent pas à inventer des mots d'ordre pour le présent. Nous travaillons sur les rêves, sur les fantasmes, sur tout un domaine d'imaginaire qui n'a pas été exploré, et bien sûr lecteurs et lectrices peuvent y piocher ce qui les réveille ou ce qui les intéresse, mais il ne s'agit pas de mots d'ordre.
Et ce « nous », ce sont toutes les voix qui vous traversent et tous ces écrivains qui vous composent?
Alors, oui, quand je dis « nous », c'est bien sûr c'est Eli Kronauer, Manuela Dreger, Luz Bassmann et Antoine Volodine.
Voilà, tous vos pseudonymes. Merci beaucoup, Antoine
C'est
Volodine, d'être passé
remercie.
Autour de cette grande table à l'occasion de la parution de votre nouveau roman, Frères sorcières, qui vient de paraître au Seuil. Merci.